suis ravie d'être de nouveau parmi vous. J'ai plaisir à retrouver des visages maintenant connus et en même temps découvrir des nouveaux lecteurs potentiels, intéressés en tout cas par la philosophie et peut-être par la collection La philo ouverte à tous. Alors je suis aujourd'hui parmi vous pour vous parler d'art parce que c'est une des thématiques qui est légèrement, je dis, parce que l'ouvrage ne porte pas directement sur l'art, développé dans l'ouvrage, le tome 2 de La philo ouverte à tous, Voir et penser de l'œil à l'esprit. Mais ça fera aussi l'objet d'une réflexion, puisque on est toujours, je dirais, baigné dans l'art, et ça fait des liens avec les autres ouvrages qui sont parus précédemment, puisque vous verrez que dans la période du Moyen-Âge, l'art est orienté vers le divin, en tout cas l'art sacré. Vous pourrez aussi constater que dans L'homme bouleversé, j'aborde la problématique du trouble et de l'émotion. Donc quelle émotion esthétique peut susciter l'art? Tout ça, en fait, on va le retrouver, cette thématique va se retrouver différemment développée dans différents de mes ouvrages. Juste pour vous présenter le petit dernier qui est sorti il y a tout juste 15 jours, c'est Pourquoi le politique, l'avenir de la citoyenneté. Alors c'est toujours le même état d'esprit pour ceux qui ne connaissent pas la collection. Chaque ouvrage traite d'un sujet qu'il développe sur un volume exclusivement. À chaque volume, un sujet différent bien sûr sera traité. Et en même temps, vous pouvez les lire dans le désordre puisque chaque dissertation, si on peut parler ainsi, je pense plutôt à des essais, chaque essai clôture ses objectifs. Sachez que la collection La philo ouverte à tous s'adresse, eh bien, comme son nom l'indique, à tous. Tout d'abord, bien sûr, à un public qui n'est pas forcément un public qui s'oriente vers un baccalauréat ou vers des études de philosophie. C'est peut-être des lecteurs qui aiment lire des essais et se tourner vers la philosophie ou la métaphysique. Ça peut être aussi des personnes qui suivent régulièrement, par exemple, des conférences sur des thématiques philosophiques ou qui sont inscrits dans des universités du temps libre, puisque maintenant, on peut dire que avec cette nouvelle mise en place d'universités pour les adultes, eh bien c'est vrai qu'on a trouvé en philosophie de nouveaux publics et de nouveaux lecteurs. Par la même occasion, bien sûr, pour ceux qui passent des études en philosophie, bien, ça fait un bon support puisqu'on peut redécouvrir des penseurs. Et puis surtout, quand vous lisez des essais, eh bien, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, l'objectif est de développer complètement un sujet en balayant toutes les pistes et surtout en le rattachant à notre monde moderne. C'est peut-être aussi ce qui fait la nouveauté de cette collection. C'est que je connais le monde de l'enseignement de la philosophie, d'abord parce que j'ai enseigné en lycée et puis maintenant j'enseigne à l'université. Et notamment à l'université du temps libre, donc j'ai un public très très vaste, et je me suis rendu compte que finalement mes collègues n'avaient pas forcément le temps, et moi non plus d'ailleurs, il fut un temps, je n'avais pas assez d'heures de cours, si je puis dire, pour développer des liens entre les concepts qui sont chers à l'aspect académique de la philosophie, et d'un autre côté, rattacher tout ça à la vie même, c'est-à-dire que on n'avait pas nécessairement le temps de tout développer et de tout rattacher finalement à une réalité concrète, celle que nous vivons. Ce qui fait que le défaut de la philosophie, si on peut lui en trouver un, ça a été d'être un peu considéré comme une discipline qui était dans l'abstraction et qui s'était progressivement éloignée des hommes, alors que Socrate lui-même œuvrait dans la cité, dialoguait, interpellait son prochain, et donc faisait de la philosophie une discipline à part entière, active et presque interactive, j'ai envie de vous dire, puisqu'il y avait toujours un jeu de questionnement et de réponse lié à cette philosophie. Alors aujourd'hui, on va parler de cet art pour vous dire que, eh bien, dès l'Antiquité, la notion d'art est rattachée à la notion de techné. Et la techné, c'est surtout ce qu'on renvoie, en tout cas, c'est surtout ce qui signifie une technique, un savoir-faire. On est loin de la pensée que nous avons aujourd'hui de l'art, qui est surtout cette idée d'une esthétique des choses, d'un regard particulièrement émouvant sur la beauté, voire même la laideur, puisqu'aujourd'hui on a l'impression qu'on joue sur différents pôles entre le beau et le laid, comme si la nuance, en fin de compte, permettait de prendre conscience des belles choses. Et puis on est entré aujourd'hui dans un art un peu plus moderne, qu'on appelle l'art conceptuel, et je crois que justement la philosophie avait intérêt à explorer ce domaine de l'art pour pouvoir dire ce qu'elle en pensait. Alors je vais procéder comme je fais chaque fois. Vous savez que j'ai pour habitude de balayer comme ça dans toute une histoire de la philosophie les concepts et faire un panorama, on va dire, des thématiques. Pourquoi le panorama et pourquoi l'historicité ? Bien tout simplement parce que ça vous permet de vous situer de l'Antiquité à nos jours et de suivre une chronologie. Après, vous pourrez bien sûr vous la réapproprier par des lectures et puis par votre réflexion, c'est-à-dire que une fois que les concepts sont intégrés, eh bien vous pouvez bien sûr commencer par contempler davantage l'art du Moyen-Âge ou celui de la Renaissance avant de vous intéresser à celui qui concerne notamment l'Antiquité. Donc vous voyez, le problème de l'art, en tout cas en philosophie, c'est de savoir le rapport que les hommes ont entretenu avec ce qui était esthétique et en même temps ce qui était technique. Alors l'esthétique, vous savez que dans l'Antiquité, les hommes ont souvent envisagé que la beauté était une beauté naturelle. La nature, la physis, se laissait contempler, et quand on la contemplait, on était ému de ses paysages, on était ému de ses couchers de soleil, et on observait la nature en y voyant la trace de l'être premier, c'est-à-dire presque ce divin qui avait mis en œuvre la totalité. Ce divin qui avait mis en œuvre la totalité, c'était pas le divin de la théologie révélée, c'était plutôt un être au sens premier du terme, une cause agente, c'est-à-dire qui allait mettre en mouvement la totalité de la matière pour lui donner une forme. Et c'est vrai que dans l'art, on est dans l'esthétique des formes, donner forme à la matière et ensuite lui donner un sens. C'est pour ça que dans la nature et dans l'Antiquité, on s'intéresse à la physis, c'est-à-dire à tout ce qui relève des éléments, pour comprendre la nature, l'agencer, l'ordonnancer et bien sûr célébrer cet être premier qui a été capable de faire quelque chose d'aussi beau. Et puis on s'est rendu compte que le mode de vie, par exemple, des Grecs nécessitait bien d'avoir un rapport à l'art, mais l'art qui était une technique était un art utile. Par exemple, si on transporter du vin ou de l'huile dans des amphores, eh bien on estimait qu'on pouvait effectivement les décorer de manière à ce qu'elles puissent être présentées dans la vie quotidienne. Ce qui fait qu'on pourrait presque parler d'art d'agrément bien plus que de beaux-arts tel qu'on pourra utiliser le terme au XVIIe siècle. Il y a un autre rapport qui est aussi intéressant dans cette antiquité, c'est que quand on regarde les temples, on se rend compte que toute l'élévation des colonnes renvoie surtout à un rapport entre le sol ou la terre et le ciel. Alors il faut savoir que c'est tout simplement parce que l'art était au service du culte. On construisait des temples, en tout cas on les bâtissait, dans des lieux qui étaient eux-mêmes mythiques, c'est-à-dire qui renvoyaient à quelque chose de légendaire. Et en même temps, ces colonnes qui s'élevaient permettaient de redresser la tête pour regarder vers le ciel. Sachez toutefois que dans l'Antiquité, quand on parlait de Dieu ou même quand on parlait de ces forces suprarationnelles, il fallait distinguer une mythologie qui racontait des divinités, Zeus, Athéna, Apollon et bien d'autres, de la cosmogonie, c'est-à-dire ces grands principes à l'œuvre dans le monde, Gaïa, Chronos, Chaos, et qui allaient donner ensuite l'apparition du monde tel que nous le connaissons. Donc deux choses à distinguer, le lieu de culte où l'on célébrait les divinités et le lieu de culte dans lequel on célébrait finalement la cause ordonnatrice du monde. Par la même occasion, parce que les Grecs y tenaient, vous savez qu'il y avait le lieu qu'on appelle Olympie, qui était un lieu magnifique parce que bien évidemment on avait bâti des colonnes, on avait élevé des temples, mais c'était aussi le lieu où on travaillait le corps, ce qui fait qu'il y avait l'esthétique du corps qui prenait toute sa part et toute sa grandeur chez les Grecs. Donc quand on parle d'esthétique, on parle surtout de techné, de technique, donc il pouvait y avoir un art pour le corps de la perfection dans l'application et dans la performance, merci à vous, comme il pouvait y avoir également dans l'idée de l'accommodation d'un quotidien qu'on voulait rendre un peu plus beau, eh bien une technique qui permettait de rendre plus jolis les amphores. De la même manière que la santé, donc l'équilibre du corps, relevait d'une technique également qui était bien aussi lié à un site, puisqu'on était sur tout ce qui relevait de la médecine à Corinthe, et ce site, eh bien, c'était un lieu où effectivement, eh bien, on avait également posé des colonnes, mais c'était le lieu où on essayait de rééquilibrer l'homme, donc cette terre et le ciel, les divinités. Pourquoi toujours ce rapport au sol et au céleste? Tout simplement parce que déjà, on avait bien compris que sur la terre, il y avait des hommes, et ces hommes pouvaient s'élever en quelque sorte, notamment dans les Jeux Olympiques, se comparer à des divinités, mais sans être pour autant des divinités. Alors, il y avait le ciel qui était le lieu des divinités, qui était le siège des idées pour Platon, et donc l'homme sensible devait toujours tendre dans une forme de dialectique, une élévation vers un degré de perfection qui le mènerait vers les idées pour Platon, mais surtout vers les archétypes et vers ce qui était un idéal de la vertu. Et dans cet idéal de la vertu, il faut savoir que pour les Grecs, il y en avait cinq, le beau, le vrai, le juste, la tempérance et le souverain bien. Et toutes ces vertus, finalement, étaient, calqué dans des modèles particuliers d'existence, c'est-à-dire que le médecin visait l'équilibre, donc la justesse, l'équilibre dans le corps pour la santé. Celui qui œuvrait pour l'esthétisme, eh bien lui, il était pour l'équilibre des formes, et notamment des formes orales, puisque rappelez-vous que dans l'Antiquité, c'est pas la peinture hein, qui est le genre premier. On sait très bien que c'est tout ce qui relève de l'oralité, du logos, du discours, et donc il faut mener le langage avec des techniques bien particulières, mais pas seulement. Il faut que le discours soit beau et rejoigne des qualités d'esthétisme, notamment dans la tragédie telle qu'on pouvait la dire à Épidaure. Donc on se retrouve dans des lieux magiques comme ça. La Grèce incarne des lieux magiques qui renvoient à des vertus. Et ces vertus, eh bien, sont toujours, en fin de compte, le cadre possible d'une perfection et d'une élévation. Alors ça, c'est pour l'Antiquité, et on se rend compte avec cette Antiquité que la poésie sera extrêmement importante. D'ailleurs, la philosophie a commencé par être écrite sous forme de poèmes, de grands et longs poèmes qui parlaient de l'être premier, qui parlaient d'une métaphysique, qui parlaient de l'agencement du monde. Et bien souvent, on mettait en relation les éléments par rapport à une chromatique. On estimait par exemple que des couleurs correspondaient à des éléments et que dans leur combinatoire, eh bien, ça permettait la réalisation d'une possibilité, d'une palette de couleurs qui au départ n'était pas donnée en soi. Donc on considère que la peinture, c'est plutôt l'observation d'une nature qui elle-même développe des chromatiques, c'est-à-dire des couleurs. Dans la poésie, on va décrire ces couleurs pour montrer qu'elles peuvent être du domaine de l'émotion. Dans ce qui rejoindra le genre de la tragédie, on va vouloir commencer sur les fêtes de Dionysos, c'est-à-dire dans un air de fête, avec l'idée qu'il faut s'amuser, boire un peu de vin, in vino veritas, pour partir d'un pas léger, on va dire, vers Épidaure. Et Épidaure, on n'est plus chez Dionysos, on va quitter Dionysos pour accéder à un dieu qui sera celui de la beauté, Apollon. C'est comme ça que tout ce qui va être de l'ordre de l'oralité prendra une forme bien spécifique, celle de la tragédie par exemple, et cette forme spécifique eh bien, devra être mimée, jouée pendant la représentation. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, on ne voyait pas les visages des comédiens, puisqu'il y avait un masque qui incarne la persona, un masque qui à chaque fois représentait un moment de l'émotion qui était dicté ou parlé. Cette oralité est importante chez les Grecs parce que, rappelez-vous, quand vous lisez Platon, c'est à partir du Phèdre que l'on prend conscience, parce qu'il le dit lui-même, que la société est en train de changer, enfin la société grecque est en train de changer, puisqu'on passe du genre de l'oralité à l'écriture. Et toute la deuxième partie, en fait, du Phèdre de Platon vous rappelle à quel point il était important de savoir structurer ses idées, argumenter, et finalement Platon nous donne littéralement un cours de dissertation, comment mener ses pensées, comment argumenter et comment éclairer d'exemples nos idées. Alors voilà l'Antiquité. Bien sûr, je ne peux pas vous parler de cette Antiquité en laissant de côté Aristote. Aristote, lui, bien sûr, c'est l'homme sensible à la nature. Il est pour une société naturelle. Il n'est pas dans la transcendance, lui, puisqu'il considère que Dieu est un premier moteur. Il est immanent, il est donné avec les choses. Mais nous avons une âme sensible. Et cette âme sensible, eh bien, c'est celle qui va manier le verbe dans la poésie. Mais c'est aussi une âme qui sera tournée vers les choses et pourra en être touchée. L'Antiquité est donc le lieu de la techné, l'Antiquité est le lieu d'un savoir-faire, l'Antiquité est le lieu de l'artisanat, l'Antiquité est le lieu finalement où l'art a une structure qui renvoie à l'utile, au nécessaire, mais pas seulement. Quand je dis pas seulement, bien c'est parce que ça rejoint aussi le fait religieux. Et donc l'élévation des colonnes, eh bien c'est pour permettre ce lien entre la terre et le ciel. Et rappelez-vous, chez les Gaulois, on considérait que c'était le chêne qui était le lien entre le sol et le ciel, parce qu'on voulait rendre la justice sous le chêne, parce qu'on considérait justement qu'il fallait qu'il y ait une justice terrestre, mais qu'il soit toujours en relation, en permanence en relation avec une justice céleste. Voilà ce qu'on peut dire sur l'Antiquité. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais comme je voudrais quand même balayer les autres époques de l'histoire de l'art, en tout cas de la philosophie de l'art, il faut que je puisse faire quelques coupes maintenant, vous m'en excuserez. Et donc je passe à cette période où on va passer d'un polythéisme à la vision d'une divinité unique, à savoir un Dieu qui se révèle aux hommes et qui finalement va montrer à la créature qu'elle est au centre de la création et qu'elle peut lever la tête pour regarder le ciel et donc, bien entendu, être en relation, en adéquation avec le divin. Cette relation ou adéquation avec le divin, bien, va se manifester par la prière, par les textes, par l'enseignement des Écritures. Il y aura un certain dogme religieux qui va se poser. Mais il faut savoir que ça va aussi influencer les lieux de culte et ça va aussi influencer l'art lié à ces lieux de culte. Donc on n'est plus dans le temple, on va bâtir des églises. On n'est plus simplement dans l'idée d'une représentation par la sculpture ou par les colonnes. On va passer plutôt à de la peinture. Et la peinture sera en quelque sorte au service de ce que l'on voudra développer, en tout cas mettre en scène sur les toiles qui vont illustrer des scènes de la vie de Jésus par exemple. Donc là nous retrouvons quelque chose de différent. Sachez qu'il y a eu toute une période où le Moyen-Âge a été marqué par la légende d'or. On retrouve d'ailleurs tout un échange des textes philosophiques dans la Méditerranée. On remonte vers l'Espagne, on sait que les façades étaient très colorées, il y avait beaucoup d'or qui ornait l'ensemble des présentations de bâtiments et on se retrouvait face à quelque chose d'assez luxueux et surtout de clinquant. Et on a interprété autrement l'art quand il a fallu resserrer un peu la discipline, j'ai presque envie de vous dire, au sein des enseignements, lorsque par exemple on s'est rendu compte que progressivement, en créant les universités, les monastères qui devenaient des lieux de culte et aussi d'enseignement, eh bien, on avait pris quelques libertés. Et le pape a donc espéré resserrer les liens en nommant des maîtres qui étaient vraiment influencés par le dogme qu'il fallait enseigner à la lettre. Et à partir de ce moment-là, l'art a perdu en quelque sorte un peu de sa liberté. Alors je dis un peu de sa liberté, tout simplement parce qu'il est devenu un art sacré, un art qui représenter des scènes illustrant la vie de Jésus par exemple. On se retrouve dans des situations où souvent le sol ou en tout cas la terre est représentée avec un aspect assez sombre. On a quitté le lumineux, assez sombre, pour représenter le péché et la souffrance des hommes qui ont fauté. Et par ailleurs, quand on levait la tête, on pouvait contempler bien entendu tout ce qui renvoyait à quelque chose de merveilleux, puisque soit on voyait par exemple la main de Dieu, soit on considérait que le sacré était dans le ciel, parce que ça renvoyait tout simplement à la possibilité d'être sauvé. On estimait que nous vivions sur terre, dans la problématique du salut, il fallait s'appliquer pour pouvoir mériter d'aller dans l'au-delà, et l'au-delà qui était le lieu des récompenses, eh bien, devait figurer comme quelque chose de lumineux, beau, apaisant, et surtout pas comme quelque chose d'inquiétant. Donc il fallait mettre en scène par une représentation et une métaphore le monde d'ici-bas qui était presque un monde malheureux au regard de tous les bienfaits ou en tout cas au regard de la félicité qui pouvait attendre les hommes s'ils étaient vertueux bien sûr et s'ils étaient récompensés par Dieu. Voilà, ça c'est la période en fait qui rejoint ce Moyen-Âge, un Moyen-Âge qui va se transformer bien sûr à mesure qu'on va se retrouver dans des situations où il va y avoir l'Inquisition, il va y avoir des procès en hérésie, bien évidemment il faut resserrer autour du dogme puisqu'il y a les réformes et contre-réformes, la science évolue, donc à ce moment-là on est en train de se rendre compte que Scott Erigène par exemple au XIIe siècle parle d'une pluralité des mondes, on se rend compte également que Eh bien, on pensait qu'il y avait une planète avec un homme posé dessus, contemplant le ciel, tenu par la grâce de Dieu. Et on se rend compte que finalement, ben, la planète bouge et l'homme aussi. Donc on relativise sa place dans l'univers. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il va falloir changer de perspective. Il va falloir, en quelque sorte, quitter cette relation bien particulière, intime, voire mystique, entre l'homme et Dieu. C'est là que les choses vont changer avec la Renaissance. La Renaissance, c'est une période tout à fait particulière en philosophie et en peinture notamment, parce que la Renaissance va être le moment où on va repenser les textes de Platon et on va les revisiter par le biais du grec. Alors, juste une petite précision là-dessus. On a toujours pensé que l'Antiquité, c'était exclusivement le voyage au sein de la Méditerranée des textes d'Aristote. Il y a eu effectivement tout un ensemble de textes d'Aristote qui ont voyagé dans la Méditerranée. D'ailleurs, c'était des extraits, pas forcément la totalité. Ou si c'était des œuvres complètes, on les traduisait en essayant de les rendre, comment dire, non seulement accessibles à l'ensemble de ceux qui allaient les lire avec une culture différente, mais surtout, on essayait de les rendre compatibles avec le Coran. C'est ce qu'ont fait les philosophes arabes, notamment Avicenne, Averroès, avant de les transmettre à Maïmonide, donc pour qu'il une traduction ensuite orientée vers la religion juive. Et là, on se rend compte que la Méditerranée est le lieu où on fait voyager les textes d'Aristote et parallèlement, je le précise aussi, les textes de Platon. Mais pas tous les textes de Platon, seulement quelques-uns, notamment ceux qui parlaient du ciel, puisque le ciel des idées était commun aux religions, c'est-à-dire le ciel, c'était le lieu où on avait placé les divinités, ou la divinité quand on parle du Dieu unique, et c'est le lieu de toute la révélation. En même temps, rappelez-vous, quand nous mourons, pour Platon, l'âme s'élève et elle rejoint le divin, et elle est dans la lumière puisqu'elle se rapproche du soleil. On a auparavant pensé que l'âme se retrouve cochée d'un attelage, avec d'un côté un cheval noir, de l'autre côté un cheval blanc. C'est pour montrer le manichéisme et donc que l'on peut fauter ou à l'inverse s'appliquer. Donc vous voyez, toute cette pensée platonicienne rejoint tout à fait l'état d'esprit du religieux. C'est pour ça que même certains commentateurs actuels disent que finalement Platon était dans l'avant-garde vis-à-vis de la religion. Et c'est d'ailleurs ce que disait au XVe siècle Pomponazzi, un philosophe italien, qui était d'ailleurs celui qui a fait revenir Platon sur le devant de la scène par le biais de textes traduit en grec, parce que vous savez que tout ce qui rejoint le Moyen-Âge montre des textes qui avaient été traduits en latin, puisque c'est la langue des érudits. Et on se rend compte que deux écoles persistent pour rester dans le grec, notamment vis-à-vis des textes anciens, c'est Padoue et Florence. Et Florence et Padoue sont un peu en rivalité intellectuelle. Et surtout, ce qui est très intéressant pour les enseignements à ce moment-là, c'est qu'on met des maîtres qui sont pas d'accord l'un avec l'autre dans la même université. Donc vous mettez deux maîtres en concurrence, qui généralement étant en concurrence vont essayer de s'appliquer le mieux possible pour disserter les uns avec les autres et se disputer intellectuellement. Les étudiants en ce temps-là choisissaient le maître avec qui ils voulaient suivre les enseignements à la séance, c'est-à-dire qu'on allait voir le maître, on l'écoutait, s'il nous décevait, la fois d'après on pouvait aller écouter l'autre. Donc il y avait une espèce de rivalité comme ça entre les échanges intellectuels que pouvaient avoir les grands penseurs de la philosophie, mais aussi une rivalité par rapport au nombre d'effectifs qui prouvaient en même temps la qualité du maître ou à l'inverse, qui montraient eh bien qu'il était, on va dire, incompris par ses étudiants, pour pas dire qu'il était mauvais. Donc voilà comment on se retrouve dans une période où on fait revenir les textes de Platon en grec, et quand on fait revenir les textes de Platon, on se réfère notamment au Timée. Dans le Timée, le Timée est un ouvrage dans lequel on montre que Dieu n'a pas créé la matière. Il l'a juste mis en forme, c'est-à-dire qu'il s'est comporté comme un démiurge, c'est-à-dire non pas comme un Dieu qui crée, mais un démiurge, c'est celui qui façonne, c'est celui qui met en œuvre, c'est celui qui, comme un artiste peintre, eh bien, va réaliser sur la toile le dessin. Eh bien, on se rend compte que finalement, on est sur un Dieu qui n'est pas créateur, mais par contre qui est créatif. Et c'est là toute la différence. Et donc, avec cette école florentine et padovane, on va se retrouver avec toute une filiation de philosophes italiens qui vont réhabiliter les textes de Platon, les réintroduire progressivement dans la pensée et dans la scolastique. Et à ce moment-là, on va réhabiliter la chromatique de Platon. Et c'est comme ça que vous trouverez dans l'art de grands changements. D'abord, on change de perspective. Il y avait 2 degrés dans l'expression de l'art. La terre, où on voyait les hommes dans une sorte de presque d'abandon livré à eux-mêmes et qui devait s'appliquer pour aller dans l'au-delà, mériter un salut, un au-delà salvateur, bien sûr, avec toujours quand même la crainte du châtiment, vous le savez bien. Ou alors, on a voulu ensuite changer cette vision de l'art qui était uniquement concentrée sur l'ici-bas et là-haut, presque un dualisme dans l'art. Ou alors, on changeait cette perspective, comme le suggère la Renaissance, je pourrais presque dire les Renaissances. Et à partir de ce moment-là, on va introduire l'art du portrait. L'art du portrait, c'est d'une certaine manière oublier un peu Dieu. C'est ramener finalement l'art à la grandeur de l'homme. C'est aussi, rappelez-vous, l'école d'Athènes, le fameux tableau, où vous avez la représentation des philosophes, et notamment Platon qui a le doigt en l'air et qui montre le ciel. Non pas le ciel du Dieu unique, on l'a bien compris, puisque vous retrouvez autour de ce ciel les spirales qui sont liées non seulement à la fécondité, mais la spirale de l'éternité qu'on retrouve chez les monuments grecs. Donc c'est pour rappeler qu'on parle du ciel des idées platoniciens, qu'on se détache de la théologie révélée pour intégrer la théologie rationnelle. On est dans un temple qui ressemble un peu à une église, mais qui n'en est pas une. On a une représentation de tous ces philosophes, les uns assis sur les marches, les autres debout, conversant les uns avec les autres. Ça veut dire qu'on reprend toute cette pensée antique qui va réalimenter finalement toute cette scolastique tournée vers le religieux et qui avait un peu, tendance à s'essouffler, on va dire ça comme ça, pour pas dire à être un peu étriqué, parce que le dogme s'imposant de plus en plus, on ne laissait plus de place à la pensée, dans son déploiement le plus large possible.